Bonjour à toutes et à tous, ici l'œil de Chéri. Avant de plonger dans votre épisode, voici un petit moment de publicité. Et oui, ça y est, le podcast devient tellement influent qu'on nous demande de faire de la publicité. Mais ça tombe bien car c'est sur notre compositeur préféré. Alors je vais vous parler d'un événement pas comme les autres. Il s'agit de Beethoven Wars. Du 23 au 26 mai, la scène musicale accueillera ce spectacle immersif imaginé par la chef d'orchestre Laurence Equilbet et l'auteur-réalisateur Antonin Baudry. Imaginez un space opéra immersif ou un film d'animation inspiré de la science-fiction et de l'univers manga qui se marie harmonieusement avec les œuvres moins connues de Beethoven. C'est ce que vous promet Beethoven Wars. Pour en savoir plus sur cet événement unique et captivant, rendez-vous sur le lien en description de cet épisode. Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience fantastique. On lance l'épisode et peut-être on se retrouvera du 23 au 26 mai à la scène musicale.
Écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine.
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran. Et il marche maintenant.
On peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chéri. Cette semaine, nous allons parler du problème à trois corps, la grande série événement de Netflix, peut-être la grande série événement de l'année. On a déjà beaucoup évoqué cette saga littéraire sur notre podcast. Liu Cixin a même été notre invité l'année dernière. Bref, on considère autour de cette table qu'il s'agit d'un des plus grands auteurs de science-fiction et il était évidemment incontournable de parler de cette adaptation. Avant de présenter nos invités, on lance la bande-annonce de la série qui a été créée par David Benioff et D.B. Weiss.
Il faut que je te dise un truc important. Je pense que tu vas trouver ça délirant. Mais c'est vrai. Ça nous concerne tous. C'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps.
En 1977, ils ont détecté un signal. Ils l'ont baptisé le signal WOW.
Qu'est-ce que ça dit ?
Ils sont en chemin.
Mais la cible de qui? Voilà, c'est ça la vraie question.
Ah, bonjour, trésor.
Lorsque notre conscience s'éteint dans un monde, elle peut continuer d'exister dans un autre monde.
Je voudrais que tu me dises ce que tu en penses.
Ça y est, c'était la bande-annonce du problème à trois corps actuellement sur Netflix. Les 8 épisodes sont disponibles dès maintenant. Vous pouvez regarder tout d'un coup. On va présenter nos amis qui sont là. Vous les connaissez déjà si vous suivez le podcast depuis un petit moment. On passe à vous. Bonjour Romain Nigita.
Bonjour Lloyd.
Romain, vous êtes celui qui est déjà venu sur notre podcast pour parler d'X-Files, entre autres. Vous êtes spécialiste des séries, vous êtes journaliste. On s'est déjà retrouvé pour parler en plus du problème à trois corps, c'était il n'y a pas très très longtemps.
C'était également, à la télévision sur Tech & Co,
une chaîne de BFM. C'est ça, on a débattu ensemble et on est très heureux de vous retrouver. Vous étiez le premier à voir la série en France, vous. Vénard.
J'ai pas le droit de le dire, mais oui, je l'ai vu il y a un petit moment, alors que c'était même pas terminé, certains effets spéciaux n'étaient pas complétés. Donc ça date un peu, je l'ai pas revu depuis d'ailleurs, donc vous allez me pardonner peut-être certains oublis. Mais oui, puis j'avais lu les bouquins avant, et puis j'ai également jeté un coup d'œil à l'adaptation télé chinoise qui a précédé cette adaptation Netflix, mais je pense qu'on reparlera de tout ça dans la suite de la discussion.
Alors, notre deuxième invité, lui, il connaît par cœur, évidemment, le programme à trois corps, c'est Gwenaëlle Graffric. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Vous êtes aussi une des voix connues de notre podcast. Vous êtes le traducteur de Lucy Chin. On a déjà pas mal travaillé ensemble depuis pour mettre en avant ce géant de la science-fiction. On va commencer assez simplement, juste pour résumer très, très, très brièvement. Je vais un peu pitcher la saga. Le problème à trois corps raconte le premier contact agressif entre la race des Trisolariens et des Terriens sur plusieurs centaines d'années. Je vous laisse évidemment découvrir les romans qui sont édités chez Actes Sud et qui sont très intéressants. Il existe aussi une version maintenant bande dessinée qui a été traduite aussi par Gwenaëlle chez Hachette. On va commencer les hostilités, messieurs, puisque bon, vous êtes déjà pas mal répandus tous les deux dans les médias pour vous plaindre, donc ça va être intéressant. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de la série, sans spoiler, s'il vous plaît, comme ça les auditeurs qui n'ont pas encore vu la série, qui peut-être attendent d'avoir notre avis, pourront encore être un petit peu surpris. On va commencer avec vous, Gwenaëlle, en tant que traducteur, c'est vous qui avez la parole pour débuter.
Oui, alors bon, je me suis pas vraiment plaint, mais effectivement, j'ai commencé à teaser un petit peu ce que j'ai aussi eu la chance de l'avoir un petit peu en amont. Déjà, ce que je voulais dire avant toute chose, c'est que oui, il y a un côté un peu touchant, même presque un peu surréaliste en réalité, de voir le destin et la vie de ces livres, de ces histoires, entre le moment où moi je les ai découverts il y a déjà un certain temps, plus d'une dizaine, ouais, à peu près une dizaine d'années, un peu plus, et de ce qu'elle advient aujourd'hui. Ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu d'autres, ce que vous évoquez d'ailleurs tous les deux, il y a eu d'autres adaptations de cette série, et je trouve que c'est aussi intéressant de voir au regard des autres adaptations, d'observer ce que Netflix a fait. C'est-à-dire de comprendre aussi, à partir d'un même matériau de départ, de voir les différentes possibilités qui s'offrait en fait aux personnes qui adaptent ces histoires, que ce soit en bande dessinée, dans la série, effectivement, Romain le disait, télévisée chinoise, et dans ce que fait Netflix. Et donc je pense que c'est déjà important aussi de garder ça en tête, et qu'on a de cette chance en fait d'avoir plusieurs adaptations de ces histoires, et de pouvoir mesurer aussi les choix et les stratégies de chacun.
Oui, alors, mais vous répondez pas à la question, Gwenaëlle.
Après, sur ce que j'ai...
Vous répondez pas à la question, Gwenaëlle. Est-ce que vous avez aimé ou pas, alors ?
Est-ce que j'ai aimé ? Eh bien, pour le coup, j'ai apprécié les efforts qui ont été faits. C'est-à-dire, je mesure à la fois, mais on en reparlera, j'imagine, la manière dont le matériau a été pris. Et en même temps, j'ai un certain nombre de réserves. Qui sont, à mon avis, principalement liés, pas forcément à une sorte de traitement volontaire ou détourné des producteurs, mais à mon avis de la grammaire Netflix, en fait, du principe de ce qu'on attend d'une série américaine. Et je pense que les principaux défauts, à mon sens, encore une fois, c'est ultra subjectif ce que je suis en train de dire, viennent probablement de ce qu'impose la grammaire des séries Netflix.
Romain, vous alors ?
Bah, moi, dans cette adaptation par Netflix, j'y ai trouvé du bon et du moins bon. J'ai été agréablement surpris par l'adaptation en tant que telle, c'est-à-dire la transposition de non seulement du premier roman, mais des trois romans, finalement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent des romans suivants. On pouvait s'attendre à quelque chose de très complexe et d'inadaptable. Finalement, ils en ont fait quelque chose d'assez limpide, d'assez fluide, y compris dans la manière de créer des liens entre des personnages qui n'avaient pas de lien dans les romans. Donc à ce niveau-là, vraiment, je trouve que c'est une réussite à ce niveau-là, en termes de manière de faire rentrer les gens dans cet univers. Par contre, la grosse déception de mon côté, elle est sur ce qui m'avait finalement le plus captivé dans les bouquins, c'est tout l'aspect scientifique. Je trouve que tout l'aspect prospective scientifique des livres est franchement... ébouriffant, parce que Lucy Xin, finalement, dans cette histoire d'invasion extraterrestre, qui est un thème ultra classique de la science-fiction, on va pas faire toute l'histoire par remonter à la guerre des mondes, etc. Bref, il redigère toutes les contraintes scientifiques dont s'étaient affranchis la plupart des romanciers ou auteurs précédents. Le fait que pour communiquer à travers l'espace, il faut plusieurs centaines d'années. Le fait que les extraterrestres, c'est pas forcément juste des petits hommes verts avec deux bras, deux jambes, une tête, finalement qui nous ressemblent de manière à peine modifiée. Bref, toutes les facilités qu'ont utilisées les autres séries, mais y compris des séries que moi j'adore, comme par exemple Star Trek, Lucy Xin, il dit non, la science nous explique que ça, c'est pas possible. Il y a des contraintes, moi ces contraintes, je vais en faire des enjeux. je vais en faire des enjeux de narration, parce qu'il y aura un effet boule de neige avec, il faut telle découverte pour ensuite provoquer telle découverte pour pouvoir faire ci, ci et ça. Pour moi, c'est vraiment ça la maestria de ces romans, c'est ce côté jeu de piste scientifique. Et malheureusement, ça, je ne le retrouve pas dans la série. Tous les problèmes, tous les défis scientifiques sont vraiment survolés. Tout est résolu, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, de manière beaucoup trop simple. Donc finalement, on ne comprend pas pourquoi ces personnages sont aussi cruciaux et aussi intelligents, parce que tout est résolu en deux coups de cuillère à peau. Même chose pour la réalité virtuelle, qui est un élément fondamental du premier roman. Là, c'est résolu finalement en, je crois, 4 ou 5 épisodes, et on se dit, bah, finalement, à quoi bon ? C'est bien joli, mais ça ne sert pas à grand-chose dans l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est ce qui en ressort à la vision de la série. Donc vraiment, moi, pour moi, c'est la plus grosse déception de cette version télé. C'est-à-dire qu'ils ont tellement, je dirais pas simplifié les choses, mais en tout cas digéré les choses, que, bah, il en manque la substance, c'est ce qui rendait le roman captivant.
Ouais, alors moi, je fais partie des gens qui ont apprécié la série, que je recommande de regarder, évidemment. Moi, ça a bien fonctionné. J'ai été assez captivé par le rythme. Tout n'est pas parfait. Je suis assez d'accord sur la partie scientifique. La grande déception de cette série, c'est que c'est un peu la science expliquée aux enfants et que tous les grands concepts assez géniaux de Lu Cixin sont, on va dire, effleurés. Mais ça, c'est peut-être la faute aussi à une... peut-être mainstreamisation entre guillemets, et que c'est compliqué sur Netflix, sur une série grand public, de faire un peu de science hard SF, puisque quand même la dimension littéraire, ça reste quand même de la hard SF. Par contre, ça me divertit, je trouve que ça reste quand même du niveau des séries Apple TV en science-fiction, que c'est très propre, que c'est bien réalisé, qu'il y a des money shots, qu'il y a vraiment des séquences dont on se souvient. Et j'ai passé vraiment un bon moment. Alors bien sûr, c'est moins bien que le livre, mais ça, je pense que s'il n'y a pas une adaptation, on dira que c'est très très rare qu'une adaptation soit aussi bonne que le livre original. Mais j'ai été assez surpris de voir beaucoup de critiques, et je me dis, est-ce que finalement on n'en attendait pas trop de cette adaptation du Problème à trois corps? Est-ce que ceux qui ont lu comme nous et qui sommes fans, on trouve ça génial? Est-ce qu'on s'est dit finalement, bah voilà, on se retrouve face un peu à la même problématique qu'on a dans beaucoup d'adaptations, de comment adapter l'inadaptable ou comment faire comprendre à un grand public des concepts très compliqués? Mais moi, j'encourage vraiment à voir cette série.
Bah, il y avait sans doute une trop grosse attente, soit de notre part qui avons lu et aimé les bouquins, soit de la part de ceux qui n'ont pas lu les bouquins, mais à qui on a dit « ces bouquins sont formidables, tu vas voir, la série va être géniale ». Cet écart entre une adaptation et le bouquin d'origine, souvent c'est en défaveur de l'adaptation quand le bouquin est génial. Mais il y a plein de films ou de séries formidables, mais qui sont basés sur des bouquins dont on n'a jamais entendu parler, qui sont complètement nuls. Et ils en ont pris deux phrases et deux pages, ils ont fait un truc formidable, alors que quand on va lire l'original, ça n'a aucun intérêt. Piège de cristal, c'est un petit roman noir de policier qui avait déjà été adapté avec Frank Sinatra dans les années 70. Tout le monde s'en fiche complètement, alors que le film est un chef-d'œuvre du film d'action. Voilà, je prends un exemple parmi d'autres. Là, en effet, le problème, c'est qu'on part sur un truc qui est vraiment un totem de la littérature récente. Donc forcément, et en plus venant de la part des gars qui ont fait Game of Thrones, avec tous les défauts qu'a Game of Thrones par ailleurs. Mais là où c'est marrant, c'est quand on se souvient justement des débuts de Game of Thrones, qui moi me rappelle les débuts de cette adaptation télé. Si on revoit la première saison de Game of Thrones, il n'y a rien de spectaculaire, à part les décors, etc. Mais il n'y a pas de grande bataille. La seule grande bataille, je prends souvent cet exemple-là, en fait, Tyrion se prend un coup sur la tête, il tombe dans les pommes, et quand il se réveille, on lui dit « bah dis donc, c'est dommage, t'as raté la bataille !» Donc il n'y a pas un énorme budget dans la première saison de Game of Thrones. D'ailleurs, le phénomène n'a décollé que, grosso modo, à partir de la saison 3 avec le Red Wedding. Donc là, on pourrait se dire que ça va être un peu pareil avec le Problème à trois corps. Sauf que maintenant, les réalités économiques des plateformes font que si cette saison 1 ne fonctionne pas, est-ce que Benioff et Weiss auront, et Alexander Wu, qui est le troisième showrunner qui s'est rajouté à l'équipe, est-ce qu'ils auront l'opportunité de faire la suite qui est potentiellement la plus spectaculaire? Et on peut dire aux gens, mais attendez, faut vous farcir la première saison, c'est après que ça va devenir intéressant et spectaculaire. Mais si ça se trouve, ils pourront jamais la faire.
On va laisser Gwenaëlle répondre. Attention à votre barbe, Romain. Vous avez une belle barbe bien fournie, mais on entend que ça bruisse un petit peu dans le micro. Gwenaëlle, qu'est-ce que vous pensez de nos premiers échanges là autour de ça?
Alors moi, pour essayer d'un peu d'entrer dans le détail, je vais essayer de dresser une liste des défis en fait qui pouvaient se poser pour l'adaptation du Problème à trois corps. Et pour échanger un petit peu sur le sujet, moi j'essaie de mesurer la réussite de cette adaptation à la lumière de la réussite ou non de ces défis, s'ils ont été ou non adapté au sens où j'entendais. Il y a un premier défi qui, à mon avis, est celui, de, comme vous l'aviez évoqué, de la science. Comment est-ce qu'on rend à la science, à la poésie, son potentiel imaginatif? Ce qui signifie aussi rendre des personnages scientifiques attachants et en même temps leur permettre de conserver aussi ce statut et cette approche assez scientifique. Ça, c'était, à mon avis, le premier défi. Je répondrai après à la question de savoir si ça a été réussi ou non. Il y avait le défi des personnages, vous en avez aussi parlé. Là, c'était peut-être ce qu'il y avait même de plus compliqué, alors même qu'on pourrait se dire que c'est finalement quelque chose d'assez facile à transmettre. Il y a une critique qui est parfois adressée à Liu Cixin sur son traitement des personnages, sur le manque d'épaisseur de ses personnages, sur une écriture un peu plus faible de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'une série, encore plus dans le cadre de Netflix, qui vise un public très large, pouvait se dire, il faut qu'on donne un peu plus d'épaisseur, qu'on essaye de redonner un petit peu de vie ou d'attachement aux personnages. Et en même temps, je crois que ça fait aussi le cœur de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage providentiel chez Liu Cixin. Il y a des personnages un peu ratés, typiquement Luozi, pour celles et ceux qui ont lu le livre, c'est un sociologue raté, et qui s'avère être un peu par hasard pris pour essayer de développer des réponses aux grandes menaces, aux grands défis qu'attend l'humanité. Ce sont des personnages effectivement chinois. Certes, ils pourraient être d'autres nationalités, mais ça veut aussi dire quelque chose en réalité. Ça veut dire que, certes, la menace est mondiale, mais il n'y a pas ces héros qu'on attend ou qu'on voit d'habitude dans un certain nombre de séries de SF. Et je peux comprendre que pour une série produite sur Netflix, c'est quelque chose qui est compliqué à transmettre. Il faut des personnages forts, il faut qu'il y ait, une vie, il faut qu'il y ait des liens entre les personnages. Donc je peux comprendre qu'ils aient fait cet effort, mais je crois que c'est pas forcément très réussi, de mon point de vue en tout cas. C'est-à-dire que la relation entre les personnages qui ont été créés pour les besoins de la série fonctionne pas aussi bien que peut-être ils le souhaitaient. Il y a un troisième défi qui est celui de l'expérience visuelle, qui à mon avis sera plus compliqué à mettre en œuvre pour l'adaptation des deuxième et troisième tomes, si on veut. Il y a quelque chose d'un peu Lovecraftien aussi dans le premier Maître Accord, où on a plein d'éléments qui sont en fait de l'ordre de l'irreprésentable, de l'insondable, de l'indescriptible. Et moi, ça m'intéresserait de voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Autre défi, c'est celui du temps long, du temps collectif, puisque la série, la trilogie, à mon avis, elle explore beaucoup cette idée du temps collectif, du temps de l'humanité, depuis son berceau jusqu'à son envol ou son entrée dans le monde extérieur, dans le monde extraterrestre. Et effectivement, le premier tome sur lequel repose pour l'instant la première saison explore assez peu ce temps long. C'est un temps qui est très ramassé, je trouve très rapide. À mon avis, il y a un rythme qui est, mais c'est encore une fois mon point de vue, beaucoup trop rapide, qui fait que c'est compliqué de même de s'attacher aux personnages. C'est ce qu'a un peu évoqué Romain tout à l'heure. On a l'impression qu'ils sont finalement presque un peu débordés. Et puis le dernier défi, et je pense que c'est là où ils ont le plus réussi, de mon point de vue, peut-être le seul défi qui a vraiment été passé avec succès et brio, c'est dans la conception du jeu, qui est un peu centrale dans le premier tome, et je trouve qu'ils ne sont pas trop mal débrouillés sur la conception du jeu, le côté immersif, l'avancée, la progression dans le jeu. Ça, pour le coup, je trouve qu'il y a des bonnes idées dans la série. Voilà, mais sur les défis précédents, pour l'instant, je reste un peu sur ma faim, en tout cas.
Peut-être, Romain, je vais demander une analyse en tant qu'expert de série. Comment vous la situez, cette série? Qu'est-ce qu'elle pèse d'un point de vue science-fictif? En ce moment, on a quand même beaucoup de séries d'ESF, notamment sur Apple TV, qui est, je pense, ceux qui produisent les meilleures séries d'ESF. Comment vous la situez, vous, un peu, ce problème à trois corps?
C'est vrai que cette série, problème à trois corps, voudrait se situer, je pense, dans les pas de production comme Fondation, voir For All Mankind. Fondation parce que évidemment l'adaptation d'Asimov, chef-d'œuvre de la littérature, et également œuvre réputée inadaptable parce qu'en fait c'est une collection de nouvelles, en tout cas au début, qui n'ont pas forcément de lien entre eux, en tout cas pas de personnage fil rouge. Donc on retrouve un peu le même défi qu'avec le problème à trois corps, et résolu un peu de la même manière. On crée, en tout cas on tord certains personnages pour en faire des fils rouges, on se débrouille pour qu'ils survivent d'époque en époque. Parce que là aussi, c'est une saga qui se déroule sur plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et For All Mankind, on a aussi un peu la même chose, puisque For All Mankind commence dans les années 60, mais va ensuite se dérouler dans les années 80, 90, etc., et jusqu'à aller dans le futur. Grosso modo, For All Mankind, pour ceux qui ne connaissent pas, ça commence comme l'étoffe des héros et ça se finira comme Star Trek.
On a fait d'ailleurs un épisode il y a quelques années sur la première saison de For All Mankind qui est excellente et on est fan de la série. Il y a 4 saisons. La 4e saison, il y a un poil moins bien, mais ça reste quand même de la.
Ça reste brillant et
très bien. Hein.
Et absolument inouï. Donc voilà, je pense que le problème à trois corps pourrait se situer dans la veine de ces séries-là, c'est-à-dire de la science-fiction avec des idées assez grandioses, des concepts assez épiques. Et c'est là où, pour moi, ils échouent un petit peu. Ça reste, on va dire, sur la troisième place du podium. On parlait du visuel, notamment parce que cette série bénéficierait, on n'a jamais de vrais chiffres confirmés, mais en tout cas bénéficierait d'un budget absolument inouï et qui serait l'un des plus gros budgets de l'histoire de la télévision. On parle de quelque chose de l'ordre entre 200 et 300 millions de dollars pour 8 épisodes, ce qui est quand même faramineux, qui est supérieur aux dernières saisons de Game of Thrones. Et j'ai eu l'occasion de critiquer ce point-là. Moi, honnêtement, je ne retrouve pas l'argent à l'écran. Hormis les quelques séquences dans la réalité virtuelle, notamment celle, je vais peut-être un peu spoiler, avec l'armée qui fait un ordinateur humain, qui dans le bouquin est une séquence absolument dingue. À l'écran, elle est là, la séquence, mais je trouve qu'elle n'est pas très compréhensible, déjà. Et là aussi, on se dit à quoi bon. Honnêtement, moi, en voyant l'épisode, je me dis, mais ça n'apporte rien dans la narration de la série. Donc, hormis quelques séquences comme ça très spectaculaires, il n'y a pas grand-chose de spectaculaire dans la série. Si, il y a la fameuse scène avec le bateau. Mais là aussi, je trouve qu'elle tombe à plat. Elle y est. Mais je trouve que là aussi, elle n'est pas amenée comme il faut. Mais voilà, hormis ces deux séquences-là, il n'y a pas d'acteur très connu qui justifierait un salaire démentiel. Il y a en effet les deux créateurs qui viennent de Game of Thrones qui sûrement peuvent demander un salaire dingue. Mais tout ça, je ne le vois pas à l'écran. Je l'aurais compris pour les adaptations des tomes suivants. Mais alors que justement, dans Fondation et For All Mankind, il y a un vrai boulot de world building, que ce soit dans les premières saisons de For All Mankind pour les années 60, le côté l'étoffe des héros dont je parlais, ou dans Fondation, où là, on a dès la première saison, on a des décors absolument dingues. Enfin, on a Trantor, on a tous rêvé de Trantor en lisant Asimov, alors qu'on a vu Coruscant dans Star Wars, qui est une pâle copie de Trantor. Bah là, le Trantor qu'on a dans Fondation, et je trouve, est à la hauteur des bouquins. Et là, ça se passe à Londres, de nos jours, dans des bureaux, grosso modo, le premier trois corps. Donc voilà, où est passé le pognon?
Ouais, et en même temps, il y a quand même.
Je suis volontairement un petit peu violent parce qu'il faut que quelqu'un soit pas content dans ce podcast.
Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a, en tout cas, le premier épisode, le pilote, il y a vraiment du sense of wonder, il y a vraiment du mystère, il y a un très très beau final, très SF. On est un peu dans un côté très âge d'or de la SF finalement dans ce premier épisode. Et moi, je trouve que quand même le pilote donne envie de regarder, qu'il y a des séquences dans la série où on en a pour notre argent, en tout cas, où en tant que spectateur, on ne s'ennuie pas. Il y a un casting, alors en effet, il y a des acteurs, moi je trouve, qui sont très bien, notamment l'inspecteur Benedict Wong.
Benedict Wong qui est formidable. En gros, les vieux sont très bien, les jeunes sont un peu plus transparents. Enfin, moi, c'est un peu le ressenti que j'ai eu.
Et on a quelques acteurs de Game of Thrones qu'on retrouve aussi. Gwenaëlle, je vais vous poser une question sur un peu un sujet, un sujet un peu touchy. Suite à ses propos de soutien à la politique chinoise sur la population ouïghour, et on le rappelle, qui se rapproche d'un nettoyage ethnique ou d'un génocide culturel selon différentes ONG, Liu Cixin a été mis de côté de la promotion de la série, puisqu'il avait il avait tenu des propos, ces propos-là qui défendaient la politique chinoise dans le New Yorker, c'était en 2020, ça avait déclenché la foudre de 5 sénateurs américains qui avait demandé à Netflix de reconsidérer ce projet d'adaptation. Ça avait fait grand bruit à l'époque. J'aurais bien voulu avoir, vous, votre analyse, parce que même quand on a fait notre fameux podcast avec Liu Cixin, évidemment, il y a des gens qui nous ont posé la question pourquoi on n'a pas interrogé Liu Cixin sur les Ouïghours. Alors, vous pouvez un petit peu recontextualiser. Est-ce que vous, et ma deuxième question, c'est est-ce que vous, en tant que spécialiste qui connaissait très très bien la Chine, ça vous a choqué que finalement Netflix va mettre pas Liu Cixin en promo, alors que peut-être ça aurait été aussi sympathique de le voir défendre comme l'ont fait certains créateurs japonais pour des séries live action.
Oui, vous avez 2 heures. Non, alors ça, effectivement, c'est un peu long et complexe comme sujet. Pour recontextualiser un petit peu le tout, au moment où cette interview est donnée, on est aussi, je crois, en pleine campagne présidentielle aux États-Unis, donc c'est des sénateurs républicains qui ont réagi aussi, je pense, relativement au fait que Netflix est plutôt, mais le monde du cinéma aux États-Unis, plutôt l'autorité démocrate. Pour revenir sur cette interview donc, qui a été donnée au New Yorker, c'est un interview donné à une journaliste américaine, sino-descendante, je crois, donc sino-américaine. Et l'interview a un peu ce que j'appelle moi gros sabot, c'est-à-dire qu'elle lui pose notamment une question sur est-ce que la Chine d'aujourd'hui, c'est comme dans 1984 d'Orwell. Je crois qu'il botte un peu en touche à ce moment-là, Liu Cixin, en répondant que c'est quand même un projet de fiction. Lui est un grand fan hein, de 1984, donc il sait très bien de quoi il parle. Et elle enchaîne ensuite cette journée sur une question autour effectivement du massacre et de la répression des Ouïghours en Chine, qui est un vrai problème, hein, moi qui me touche beaucoup, sur lequel je suis très impliqué. Il faut aussi prendre en compte, en fait, les choix qui se présentent à Liu Cixin quand il fait face à une question comme celle-ci. C'est le gros sujet, le plus tabou actuellement en Chine. Il a trois choix, en fait. Le premier choix, c'est de répondre, effectivement, c'est un génocide et un massacre. Les conséquences de cette réponse, c'est que bah, il s'exile aux États-Unis, il ne rentre plus jamais en Chine, il ne voit plus sa femme, sa fille, sa famille, et tous les projets qui sont en cours sont abandonnés. C'était le premier choix qu'il était possible de faire. Le deuxième choix, c'est de botter en touche, un peu comme il l'a fait sur la réponse sur 1984 et la Chine. Connaissant un peu la journaliste, elle aurait probablement insisté, et la réponse aurait elle aussi été lourde de signification. Et puis le troisième choix, celui qu'il a fait, c'était de recracher hein, complètement la propagande du régime. Il y a trois façons d'interpréter cette réponse, à mon avis, parce que c'est un peu complexe. La première, c'est qu'il adhère complètement au discours du régime du Parti communiste chinois sur le sujet, et qu'il est solidaire de cette politique, en connaissance de cause. La deuxième façon d'interpréter, c'est que bah, il faut aussi se mettre dans la peau des Chinois. En fait, leurs sources d'informations, elles sont biaisées aussi. C'est une dictature, la Chine, donc les infos qui vous parviennent, bah, c'est aussi les infos d'une dictature. Donc vous recevez ces informations-là. On voit bien, nous, toute la difficulté qu'on a en France, y compris dans une démocratie, d'avoir des sources d'informations fiables, on ne sait pas toujours d'où ça vient. Donc en Chine, bah, vous pouvez vous en douter. Et puis une troisième manière d'envisager, c'est qu'il est peut-être plus dubitatif, perplexe, voire même critique de ce qui se passe actuellement, mais que c'est un risque à prendre de répondre autre chose que la réponse officielle. Donc, est-ce que j'ai été choqué de cette réponse? Non, pas vraiment, quand on connaît un peu le contexte chinois. Liu Cixin, c'est pas un écrivain dissident, hein, ou du moins, s'il met de la politique, c'est dans ses œuvres et pas forcément dans ses discours, ou alors de façon subtile. Et je vous renvoie pour le coup à l'entretien qu'on a fait avec Lloyd pour C'est plus que de la SF, où bah, on pose des questions qui sont plus subtiles que ça. Moi, j'avais, pour celles et ceux que ça intéresse, écrit un petit article sur mon blog sur la manière de parler de politique à des écrivaines et des écrivains chinois. Donc, je vous y renvoie. Et de voir comment est-ce qu'on peut aborder des sujets, y compris même sensibles, sans forcément mettre en danger, et ça c'est important à mon sens, les personnes qu'on interview. Donc voilà, et puis quant à savoir si ça m'a touché que Netflix le tienne un peu à l'écart, ma foi, c'est peut-être aussi la manière dont fonctionne la plateforme, donc assez difficile à dire de mon côté.
Si je peux rajouter un truc, alors évidemment je connais beaucoup moins bien la Chine que Gwenaël, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que dans le bouquin, et dans l'adaptation Netflix, les deux commencent de la même manière avec la fameuse scène dans les années 60 au moment du début de la révolution culturelle avec donc un personnage qui se fait lyncher devant la foule. C'est conservé dans la version américaine et c'était présent dans le livre. Par contre, dans l'adaptation télé chinoise, cette scène est absente. Et tout ce qui est lié justement à la violence de cette époque-là en Chine est quand même quasiment totalement supprimé. Donc, en effet, la conscience politique de Liu Cixin n'est pas absente des romans.
Gwenaël, peut-être un mot sur ça, sur la représentation de la révolution culturelle et du grand bond en avant. Il y a eu des dizaines de millions de morts, en tout cas. Est-ce que le régime chinois permet ou pas de critiquer cette période-là?
Alors c'est assez complexe là encore, et puis ça dépend en fait des périodes, c'est-à-dire qu'il y a eu par exemple dans le cas de la Chine et de la littérature, toute une littérature au lendemain de la révolution culturelle, qui mettait en scène, qui racontait ces exactions de façon extrêmement crue, hein. Il y a plein d'auteurs chinois et d'autrices chinoises qui ont écrit sur le sujet. Liu Cixin, qui est un peu de leur génération, qui a vécu aussi un petit peu la révolution culturelle et de cette trempe-là. Pour préciser sur la question de quand est-ce que ça apparaît dans le récit, dans la première version, c'est-à-dire sérialisée dans un magazine, le gros magazine de la SF en Chine, du problème à trois corps, c'est effectivement dans l'ordre qui est celui de la traduction en français, en anglais, dans la série. Mais lors de son édition en version papier, pour ce qui est d'édition de la Chine populaire, ils ont déplacé le chapitre. Ça commence avec l'enquête. C'est d'ailleurs dans cet ordre-là, effectivement, que les choses sont présentées, je crois, dans la série chinoise et dans l'adaptation en BD de Sudong Tsai dont vous parliez tout à l'heure. La question de la révolution culturelle n'est pas un sujet complètement tabou en République populaire de Chine, donc il a été pas mal traité. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus tabous, hein. Le pire, évidemment, le plus tabou en ce moment, c'est la répression à l'égard des minorités ethniques en Chine, mais aussi les événements de la peste Tiananmen, la question de Taïwan. La révolution culturelle n'est pas autant. Mais c'est vrai que si on peut éviter de commencer par parler de ça, d'expliquer qu'en fait la fin prochaine peut-être de l'humanité vient d'une expérience traumatisante liée à l'histoire politique de la Chine, bah, c'est quand même un peu mieux de mettre ça de côté.
Petite question, Romain. Nos confrères d'écran large écrivent « C'est l'archétype de l'adaptation fainéante qui se contente d'accaparer les meilleurs moments du roman, voire d'en constituer une liste qui tourne vite fait au ridicule. » Est-ce que vous partagez la sévérité de nos amis d'écran large qui sont connus aussi pour leur ton toujours saignant?
Non, sur ce point. De ce point de vue-là, je ne suis pas aussi sévère qu'eux parce que justement, je trouve qu'il y a eu un effort de fait pour remalaxer un peu la chronologie de toute la saga en remettant un peu dans l'ordre et en remettant toutes les scènes qui se passent de nos jours et qui sont dispersées dans les trois romans en les remettant dans cette première saison. Pour moi, c'est un peu comme la fameuse version télé du Parrain. Le roman du Parrain qui était un espèce de remontage des deux premiers films puisqu'on sait que le second film se passe à la fois avant le premier et après, et le montage télé qui était diffusé dans les années 70 à la télévision américaine remettait tout dans l'ordre. Ça commençait par les scènes avec Vito Corleone jeune joué par De Niro, ensuite on a toutes les scènes du premier film et ensuite on a toutes les scènes du second après la mort de Vito Corleone et donc Michael joué par Pacino qui le remplace. Bref, on a tout remis dans l'ordre chronologique. Bah, c'est un peu ce que la série fait en prenant justement les personnages qui apparaissent dans le roman numéro 2, dans le roman numéro 3, mais qui sont des personnages de notre époque et qui se déroulent plus ou moins en parallèle de ce qui se passe dans le premier roman, alors qu'ils ne se croisaient pas. Bah là, ils ont tout remis dans la première saison, ils ont créé ces connexions entre les personnages qui sont des amis de fac, mais qui viennent un peu des quatre coins du globe. Donc je trouve qu'ils ont réussi à faire ça de manière assez élégante. Donc je trouve qu'on n'est pas justement sur du image par image, en tout cas dans une adaptation plan-plan, en plus du fait qu'évidemment ça se déroule donc à Londres, en Europe et pas en Chine. Donc non, je trouve cette critique assez sévère. Pour moi, les plus grosses critiques ne sont pas du tout de ce côté-là, mais j'en ai déjà parlé au début.
Gwenaël, il y a eu donc la série télé va réunir différents personnages du roman et les mettre ensemble dans une même timeline à évoluer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix narratif de prendre plusieurs personnages qui sont pourtant dispatchés sur trois romans et de les faire on va dire évoluer, les faire jouer ensemble?
Un peu comme le disait Romain, je mesure l'effort qui a été fait. Je pense qu'il y a un vrai effort, il y a des vraies réflexions scénaristiques. Bon, il y a évidemment des contraintes qui, à mon avis, sont liées à la grammaire Netflix. En fait, il faut que ça se passe de telle ou telle manière. Je ne suis pas complètement convaincu malgré tout. Je pense qu'il y a en fait deux enjeux, et pour ça, je vais peut-être me baser aussi sur les critiques chinoises des fans chinois que j'ai regardé un petit peu hier de la série. Où globalement, il n'y a pas de critique fondamentalement virulente, enfin il y en a forcément, mais grosso modo, il y a une certaine forme d'ironie en fait quant au choix des personnages. Alors c'est vrai que c'est aussi là, la grammaire Netflix qui fait que non seulement il s'agit un peu de whitewasher les personnages, c'est-à-dire d'arriver à les faire parler en anglais, alors qu'effectivement les personnages sont plutôt chinois. La volonté aussi, et c'est assez, je crois, visible et prégnant dans la série, que toutes les cases de ce qu'on peut considérer comme les minorités ethniques en Angleterre soient cochées. Donc il y a quelqu'un d'origine indienne, il y a quelqu'un d'origine chinoise, il y a quelqu'un d'origine peut-être latino-américaine. Il y a un peu toutes les cases qui sont cochées. Les internautes chinois, c'est marrant, réagissent avec un peu d'ironie sur le sujet en disant « bah voilà, on reconnaît bien Netflix là-dedans ». Donc je crois que les artifices sont, à mon avis, un peu trop grossiers dans le sens où on voit clairement que ça veut correspondre à un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il a fallu que les personnages se rencontrent, se connaissent, qu'ils aient une vie amoureuse, qu'ils aient des relations un peu fortes entre eux, il y a des archétypes. Donc je mesure l'effort qui est fait, et en même temps je trouve que les ficelles sont un peu grosses. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais voilà, on sent qu'il y a vraiment des cases qui ont été cochées sur la construction des personnages, et bon, ça ne correspond pas forcément tout à fait à l'ambition d'origine de la trilogie.
Est-ce que pour vous, vous avez reconnu quand même des acteurs, est-ce qu'en tout cas il y a des acteurs qui vous ont, vous êtes dit « ah ouais, c'est crédible » en tant que spécialiste du roman, vous êtes dit « ah oui, ce personnage-là ressemble bien à ce que j'imaginais ». Je pense notamment, on en a parlé, à Benedict Wong, qui est l'enquêteur anglais, qui est un personnage qui a percé grâce à Marvel, notamment, et de la franchise de Doctor Strange, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Gwenaël?
Bah pareil, je trouve que ce personnage est vraiment réussi. Bon, il correspond tout à fait à ce qu'on imagine du Chrétien originel. Alors, je trouve que Liam Cunningham qui joue Wade est pas mal, mais en même temps, je pense que ça, c'est un défaut d'écriture. C'est pas ultra crédible le fait qu'il ait entre les mains le destin complet de l'humanité. En fait, c'est beaucoup plus complexe dans la trilogie. C'est un personnage très fort. Je pense que le choix de l'acteur est plutôt bon, qu'il joue plutôt bien. Mais les ressorts scénaristiques en font un peu le maître tout-puissant ou le maître à bord, ce qui, de mon point de vue, est pas ultra crédible. Mais je pense que l'acteur est plutôt intéressant. Et puis, je trouve aussi que la personnage qui joue Ye Wendy, qui est sans doute la personnage la mieux construite de la trilogie de départ littéraire, et les deux sont assez convaincantes de mon point de vue. Voilà. Je trouve en revanche les personnages, et notamment celui, peut-être que je spoil un peu en disant ça, qui reprend le rôle de Luozi, il faudra voir comment ça se construit par la suite, mais un peu moins convaincant. Mais encore une fois, c'est assez subjectif et il faudra peut-être voir dans le temps long de la série.
Petite question pour Romain maintenant. Quelle différence voyez-vous avec Game of Thrones? On l'a dit, hein, les deux créateurs de la série du premier à trois corps sont les créateurs de Game of Thrones. Peut-être la série une des plus importantes de ces 20 dernières années pour l'engouement, l'événement qu'elle a créé en dehors du petit écran et qui a été incroyable. Et on a vibré, je pense, à la dernière saison à travers le monde. Et on s'était cru à un moment donné un peu comme à la Coupe du Monde ou je sais pas, au JO, où tout le monde regardait en même temps sa télé pour vibrer ensemble. Qu'est-ce que vous voyez comme principale différence? Est-ce que vous avez trouvé est-ce qu'il y a déjà un style Benioff et Weiss qu'on arrive à analyser?
Bah, la principale différence déjà même à l'origine du projet, c'est que là, ils ont le matériau de fin qui est déjà écrit. Ce qui est toujours pas le cas pour Game of Thrones, parce que George Martin n'a toujours pas fini d'écrire sa saga. C'est quand même pas un petit élément quand même quand on se lance dans une adaptation. Et ça leur a quand même été beaucoup reproché. C'est une grande critique, justifiée ou pas, de la fin de Game of Thrones, c'est qu'ils ont inventé quelque chose. Évidemment, on sait toujours pas ce que George Martin fera, mais qu'en tout cas, si la fin est nulle, c'est leur faute. Et si tout le début est bien, c'est grâce à George R.R. Martin. C'est sûrement un petit peu sévère. L'autre différence aussi, c'est que George Martin, qui est donc américain, est lui-même quelqu'un qui a l'expérience de la télévision. Il était scénariste pour la télé dans les années 80, il a bossé sur la cinquième dimension, sur la série La Belle et la Bête avec Ron Perlman et Linda Hamilton. Donc c'est quelqu'un dont l'écriture est déjà très télévisuelle. Quand on lit les romans Game of Thrones, on voit très bien que lui, son ambition, c'était d'écrire une série télé dont il n'imaginait pas avoir le budget un jour, mais c'est écrit comme une série. Ça, c'est très clair. Donc là, pour de bon, la fameuse critique d'écran large que vous me lisiez tout à l'heure, le fait de reprendre le roman plan par plan, ça, on pouvait quasiment le reprocher à Game of Thrones. En tout cas, les premières saisons, on a quasiment l'impression de lire ça. Et c'était d'ailleurs, pour moi, le souci de Game of Thrones, le gros souci d'écriture de Game of Thrones, en tout cas dans les premières saisons, c'est que chaque épisode n'était pas des épisodes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'était écrit sur une saison entière et qu'on balançait un générique de fin parce que, hop, ça faisait une heure qui était écoulée, mais il n'y avait pas de début et de milieu et de fin à chaque épisode. Moi, c'était ça que je trouvais assez pénible à suivre dans cette série. Là, je trouve qu'ils ont corrigé le tir. Sur le premier à trois corps, je trouve que chaque épisode, malgré toutes les critiques qu'on a pu avoir depuis le début de ce podcast, chaque épisode a vraiment son identité, a vraiment des enjeux à l'intérieur de l'épisode. Mais ce qui fait que des fois, certains épisodes et certaines intrigues au sein de l'épisode sont vraiment trop précipitées. Alors je sais plus exactement de quel épisode il s'agit, mais c'est vers la fin de la saison, on a un personnage qui passe tout un épisode à se dire « Oh là là, je sais pas si je vais accepter de travailler pour telle compagnie qui est absolument démoniaque. » Pendant tout l'épisode, c'est son dilemme. Finalement, à la fin de l'épisode, il dit « Ok, j'accepte de bosser pour cette compagnie. » Générique de fin, ok. Donc on attend l'épisode suivant, qu'est-ce qui va se passer? Épisode suivant, au bout de 5 minutes, « Non, maintenant, finalement, je démissionne. » Donc là, il y a quand même un souci de ce retour à l'épisodique, mais qui est contrebalancé par ce côté fil rouge. Alors, peut-être qu'il n'y a pas assez d'épisodes dans la saison. Je crois qu'il n'y a que 8 épisodes dans cette saison-là. L'adaptation chinoise, qui elle aussi ne reprend que le premier roman, je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes de mémoire. Est-ce que c'est justement l'apport du troisième larron, Alexandre Neroux, qui fait donc le troisième showrunner de cette adaptation, qui fait que Benioff et Weiss n'ont pas pu aller dans leurs défauts de Game of Thrones et là sont allés vers d'autres défauts mais qui sont différents. Alexandre Roux, lui, c'est quelqu'un qui a bossé notamment sur True Blood et qui s'est occupé de la première saison de The Terror, donc l'adaptation de Dan Simmons. J'ai du mal véritablement à trouver un lien d'écriture entre ce qu'on a connu sur Game of Thrones et sur le Prime à trois corps. Honnêtement, il n'y aurait pas eu les noms de Benioff et Weiss au générique, j'aurais pas su dire que c'était eux. On n'a pas de sexe gratuit, on n'a pas de violence gratuite, donc on ne retrouve pas, mais bon, ça c'est peut-être les obsessions de George Martin plus que les leurs. Et c'est là où j'ai un très fort doute sur le succès de cette série et sur la potentialité à voir les saisons suivantes. Je pense que les gens qui s'attendent au nouveau Game of Thrones seront forcément déçus.
Ouais, alors ça c'est sûr que c'est le grand piège, hein, après Game of Thrones, de passer après Game of Thrones. Moi j'ai eu le sentiment à un certain degré, je me suis dit est-ce que c'était pas une série un peu tampon, que c'était une mission tampon entre guillemets, qui faisait ses trois saisons et puis après il repartirait sur des nouveaux gros projets, puisqu'il y a aussi une malédiction, hein, des créateurs de séries, ça veut dire que souvent ils en font une grande et après c'est compliqué d'enchaîner des choses aussi fort ou aussi bien. On a plein d'exemples, en tout cas dans le petit monde de la télé américaine, où on connaît souvent des showrunners pour une grande série.
Avec un phénomène tel que celui-là, oui, c'est compliqué. Il y a des gens qui arrivent à faire d'autres choses, des gens comme même David Simon, Chris Carter, Stephen G. Cannell, pour aller dans plein de genres différents. Mais un tel carton comme Game of Thrones, un tel phénomène surtout, c'était déjà absolument inouï. Donc oui, c'est compliqué derrière. C'est du niveau de George Lucas avec Star Wars. Que faire après Star Wars ?
C'est ça. Gwenaëlle, qu'est-ce que vous attendez pour la saison 2 ou 3 ? Est-ce que vous vous dites que ça y est, ça va exploser ? Ou est-ce que vous pensez malheureusement que finalement cette saison 1, peut-être ça ne va pas suffire pour qu'elle soit greenlightée, pour que la suite soit greenlightée ?
Alors après, je n'ai pas votre expérience et votre expertise pour connaître quel est le marché des séries actuellement. Moi, je vais dire quelque chose qui est un peu sacrilège, je ne suis vraiment pas fan de Game of Thrones. Désolé aux auditrices et aux auditeurs. Moi, parmi les séries récentes d'imaginaire ou de SF qui m'ont beaucoup plu, moi j'aime bien The Expanse. Et je voyais bien en fait le problème à trois corps dans cette logique-là. Alors après, c'est compliqué à préciser, mais c'est vrai que je suis un peu détaché en fait de la question du succès commercial, de ce que ça peut suggérer comme suite à apporter à la série. Je pense que c'est une série qui est tout à fait adaptable. Si elle l'est avec intelligence, avec la lenteur qu'elle mérite aussi, mais je suppose que c'est pas forcément les arguments qui vont être prioritairement pris en compte par les producteurs, par ceux qui mettent l'argent au portefeuille. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire, il y a des trouvailles visuelles qui peuvent être faites même sans avoir un budget colossal. Évidemment, ça va peut-être dépendre pour les producteurs du succès de cette première saison, mais je crois qu'il y a plein de choses à faire en fait, à mon avis, qui sont pas forcément extrêmement exigeante en termes de budget. Je pense qu'il y a des séries qui peuvent se construire, qui peuvent créer du sense of wonder dont on parlait tout à l'heure, sans avoir besoin d'artifices extrêmement, extrêmement puissants.
Ah oui, c'est vous attendez de voir La Forêt Sombre adaptée.
Oui, je pense. Oui, bah oui, j'attends ça. Non, et puis c'est vrai qu'on a été un peu sévère jusqu'ici. Il faut le reconnaître. Je pense qu'il y a malgré tout des efforts. Je pense qu'il y a surtout des grosses contraintes qui sont liées à effectivement ces attentes du marché. Ou ce que les producteurs attendent peut-être ou s'imaginent peut-être de ce qu'est le marché ou de ce que sont les spectateurs de ce genre de série. Mais je note malgré tout des efforts, un respect et sans doute une passion pour l'œuvre originale. Et ça, je pense que c'est assez à valoriser, je crois.
Quid de la suite, Romain ? Comment ça va se passer alors ? S'il y a une suite, ce sera dans combien de temps ? Est-ce qu'il va falloir attendre 2-3 ans ? Comment vous voyez la suite ?
On sait déjà que l'équipe a commencé à travailler sur les scénarios d'une potentielle seconde saison, ce qui ne veut absolument pas dire qu'elle se tournera, mais en tout cas, ils ont commencé à prendre de l'avance en termes d'écriture. Ils ont même déjà suggéré le fait que, grosso modo, le deuxième livre serait adapté lui aussi en une seule saison, mais que le troisième livre pourrait prendre 2 saisons. Ouais, c'est un peu les quelques infos qui sont sorties. Mais voilà, pour l'instant, on n'a absolument aucune garantie qu'elle se tourne. On voit même des projets, en tout cas des saisons 2 ou 3 qui sont greenlightées. Et puis quelques mois plus tard, finalement, la décision est annulée. Ça se voit de plus en plus avec l'économie des plateformes. Donc même si demain Netflix annonce à grand renfort de communiqué de presse, nous lançons officiellement la saison 2, ils peuvent très bien dire dans 6 mois, bah, finalement, on ne la fait plus. Là, on est le vendredi 22 mars. La série a été lancée hier. Tous les trois, je pense qu'on a un petit peu regardé rapidement sur les réseaux sociaux quels étaient les retours. Est-ce que ça buzz ou pas ? pour l'instant, c'est tout de même très calme. Il n'y a pas un enthousiasme délirant, il n'y a pas d'un seul coup des gens qui disent « Ah, je viens de regarder ça, c'est absolument dingue, j'ai bingé toute la saison en 24 heures ». Alors, ça va peut-être venir, hein, la série n'a été lancée qu'hier. Mais malheureusement, c'est ce qu'il faut à Netflix pour avoir un succès. Or, somme toute, tout se joue le premier week-end. Dès le week-end prochain, ils vont lancer une autre série et premier trois corps, on n'en parlera déjà plus. Ça, c'est tout le revers de la médaille des plateformes comme Netflix qui lancent des saisons complètes d'un seul coup, contrairement à des séries, des chaînes comme HBO ou même des plateformes comme Disney+, qui restent avec une diffusion hebdomadaire. On a vu le carton qui est monté semaine après semaine, par exemple pour The Last of Us sur HBO. Cette diffusion hebdomadaire entretient aussi un phénomène, permet aux gens de découvrir à leur rythme. Il y a un copain qui nous en parle, bah du coup on va raccrocher les wagons la semaine d'après. Là, avec une diffusion comme c'est le cas pour Premier Trois-Corps, si ça marche pas le premier week-end, c'est mort et enterré, on n'en parle plus.
Et je suis assez d'accord avec ce que dit
Donc,
Romain.
Donc c'est vraiment, ça passe ou ça casse.
Effectivement, il y a cette idée, je pense que c'est dommage, alors c'est sans doute la manière dont fonctionne Netflix, mais de feuilletonner qui, à mon avis, qui attirerait plus de spectatrices et spectateurs de cette série. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attente. Je parlais tout à l'heure de la lenteur, du temps qu'on peut prendre aussi à digérer ces épisodes, ces informations, à s'attacher aussi à l'intrigue. Et c'est vrai que le fait de tout diffuser d'un coup peut desservir, à mon avis, l'appréciation de la série. Là où une diffusion d'un épisode par semaine aurait, à mon avis, créé davantage d'attente ou créé davantage de... d'espoir sur ce qui va se passer par la suite. C'est un peu dommage, mais après, je pense que c'est aussi comme ça qu'on tient Netflix.
Ah oui, c'est le problème de leur modèle. Après, quant à savoir dans combien de temps on peut espérer la saison 2 si jamais il la valide, je pense qu'on est sur des projets qui prennent 2 ans, un peu comme House of the Dragon, donc la série dérivée de Game of Thrones, ou Les Anneaux de Pouvoir, donc la série préquelle du Seigneur des Anneaux chez Amazon. Entre la saison 1 et la saison 2, on a grosso modo 2 ans d'attente. Là, ça se justifiera d'autant plus que vraiment l'adaptation du second tome du premier trois corps requiert des scènes assez spectaculaires. Donc oui, je pense que si jamais saison 2 il y a, ça sera 2026, pas avant.
Bon, Gwenaël, grâce à la série, vous allez pouvoir encore toucher plus de droits d'auteur. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, puisque évidemment, on le voit ça quasiment avec toutes les séries Netflix, une adaptation va faire venir de nouveaux lecteurs chez Actes Sud, en tout cas. Peut-être un conseil pour ceux qui n'ont pas encore lu Le Problème à Trois Corps. On a fait ensemble déjà un premier épisode qui analysait le premier volume tous les deux. On a encore un peu de temps, mais on fera le roman 2 et le roman 3. Mais peut-être un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui veulent découvrir Le Problème à Trois Corps. Qu'est-ce que vous recommandez, sachant qu'on est quand même dans de la hard science-fiction un peu light sur le premier, mais qu'après ça monte en puissance?
Peut-être juste avant de répondre à la question, malgré tout aussi, puisque tu parlais de traduction, rendre hommage aussi à ceux qui traduisent les sous-titres, parce que c'est pas évident, en fait, dans cette position, de traduire une série qui a été faite en anglais, principalement, mais de s'attacher, malgré tout, à conserver des éléments de la traduction française qui vient du chinois. Et donc, ça pourra peut-être surprendre certains téléspectatrices, téléspectateurs, de voir des différences entre l'anglais et le français. Mais pour le coup, je leur rends hommage parce que c'est pas toujours évident de gérer en fait ce rapport entre 3 différentes langues. Pour répondre à la question de savoir quels conseils ou quelles recommandations on pourrait faire à des futurs lectrices lecteurs, de bien avoir en tête que en fait c'est une trilogie qui se mérite sur le long terme aussi et qu'elle peut sembler lente ou un peu difficile d'accès au départ, mais qu'on en a largement pour ses frais par la suite. Et puis pour celles et ceux qui hésiteraient de se lancer dans le grand bain. C'est pas mal de passer par ces nouvelles à Lyotessine. Il y a 2 recueils de nouvelles qui constituent quasiment l'intégralité des nouvelles de Lyotessine publiées chez Actes Sud. C'est un bon moyen de se frotter un peu à son style, à son imagination. Donc voilà, c'est un conseil pour celles et ceux qui auraient lu la trilogie et qui voudraient en savoir plus sur Lyotessine, comprendre ses obsessions, ses approches. C'est un bon moyen d'aller voir ces nouvelles.
Oui, et puis il y a un nouveau roman qui vient de sortir, que vous venez de traduire. C'est son 2e ou 3e roman. Qui vient d'arriver chez Actes
Sud. C'est ça s'appelle L'ère de la supernova. Il a été écrit et publié en Chine avant la trilogie. Et alors, c'est difficile de s'en spoiler, mais le pitch de départ est assez intriguant. La question vraiment posée est si demain la Terre était confiée ou la gouvernance de la Terre était confiée à des enfants de moins de 13 ans. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce qu'il en est.
Un roman passionnant, très bien écrit, qui me fait vraiment penser un peu à ces. à ses romans très à la Robert Heinlein, un peu ses juvenile novels, qui est entre du young adulte et pas vraiment, un peu de l'adulte, c'est assez sombre, et en même temps il y a tout un propos sur le collectif qui est assez génial, avec des super moments de science-fiction, hein. C'est la magie de Lu Cixin, hein. Quand même, il y a à chaque fois dans son travail, il y a vraiment des séquences littéraires où on se rappelle, c'est très 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 imagé.
Il y a quelque chose aussi, et on en parlait un petit peu tout à l'heure pour la série, qui est vraiment au cœur de l'œuvre de Lu Cixin, c'est comment est-ce que l'humanité en tant que collectif réagit à des catastrophes, à des menaces, à des défis, ce qui est vraiment pas évident à rendre à l'écran, et c'est ce qui fait aussi toute la force de la littérature, en fait, c'est de s'emparer de ces questions sur le temps long, sur des personnages différents, des approches différentes, des échecs aussi, des hésitations, des errances, ce que ne permet pas toujours la construction d'une série où il faut que ça avance, il faut qu'il y ait des événements providentiels qui fassent avancer l'intrigue. Lu Cixin est très doué pour prendre ce temps-là, pour nous interroger collectivement, montrer ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, pour montrer nos atermoiements aussi. C'est pour ça que je pense que même si on a apprécié la série et qu'on a découvert cette histoire à travers la série, ça vaut la peine de revenir aussi au livre pour voir comment est-ce que collectivement l'humanité fait face à ces contraintes et à ces défis.
Eh ben, on va terminer notre podcast ici. Ça faisait plaisir de vous voir, les garçons. Un grand merci, Gwenaël, d'avoir joué le jeu. Gwenaël était à Lyon, et donc à côté de Lyon, et a gentiment pris un peu de temps en attendant de recevoir ses meubles pour venir nous parler du problème à trois corps. Grand merci, Romain Nigita. Un grand merci, Romain Nigita.
Avec grand plaisir.
D'être revenu sur le podcast, mais on vous rappellera bientôt, puisqu'on aimerait bien faire un épisode sur le prisonnier.
Très bon sujet.
Je crois que vous connaissez. C'est bien.
Je connais bien. Je connais quelqu'un qui connaît encore mieux que moi.
Je pense qu'on fera ensemble, peut-être.
Vénérable Alain Carazé.
Il faudra qu'on fasse ensemble.
C'est une série formidable dont il faut parler, reparler, voir et revoir.
Voilà. Bah, c'est la prochaine fois où on vous retrouve. Ce sera peut-être avec Alain Carazé pour parler du prisonnier. D'ici là, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à regarder Le problème à trois corps. Faites-vous votre avis, évidemment. C'est sur Netflix. Les 8 épisodes sont sortis. Et si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez encore jamais lu Le problème à trois corps, foncez en librairie pour découvrir cette saga. On en a déjà parlé plusieurs fois sur le podcast. N'hésitez pas à réécouter le podcast avec Gwenaël, celui avec soit Lu Cixin, Gwenaël a traduit en direct Lu Cixin, soit celui sur Le problème à trois corps où on analysait ce premier roman, et puis on a prévu de faire les deux autres, donc il faudra qu'on se trouve un temps Gwenaël pour faire ça ensemble. Voilà, encore merci les garçons, et puis à très vite dans C'est plus que de la SF.
À bientôt.
À bientôt.